Je me trouve en face d'Olivier Massé de Passe, qui est le réalisateur, bonjour Olivier, le réalisateur de l'Argo Winch 3, le prix de l'argent. Alors Olivier, combien ça coûte de l'argent?
Beaucoup, et on n'a jamais assez de budget, mais voilà, ici on a fait quand même un troisième opus avec les conditions d'aujourd'hui, c'est-à-dire en général moins que les précédents. Mais grâce à des équipes, parce que le film a été essentiellement fait par des équipes alors internationales, mais il y avait beaucoup de Belges. Moi, je suis belge d'origine. Et c'est pour ça que je suis monté sur le projet, parce que la pan-européenne, la production française voulait, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas un réalisateur belge pour ce troisième opus. Et donc, j'ai répondu présent.
Le lien peut-être par rapport à la bande dessinée, la culture belge, etc. J'imagine qu'il y a quand même un lien direct.
Voilà. Oui, j'imagine.
Olivier, en fait, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots votre parcours professionnel, comment on est arrivé au cinéma, etc., etc., s'il vous plaît.
Alors moi, je viens de la BD. J'ai commencé par le dessin, puis après, j'ai voulu commencer à faire des histoires. Bon, là, on parle de 12-13 ans. Et puis, à un certain moment, je suis tombé sur... Il me manquait quelque chose dans la BD qui était le mouvement. Et puis je suis tombé sur Elephant Man de David Lynch et j'ai vu, parce que je faisais aussi de la musique à l'époque, enfin j'ai commencé la musique très tôt aussi. Et donc je me disais qu'est-ce qui pourrait réunir tous ces éléments en une chose, et c'était le cinéma qui s'est révélé le vecteur le plus créatif pour moi. Et donc à partir, j'ai fait des études normales, et puis après j'ai surtout fait pendant 20 ans des films d'auteur.
D'accord.
Enfin d'auteur, en tout cas des films, je sais pas, parce que je considère aussi que l'Argo Winch est un film d'auteur, puisque j'ai écrit le scénario avec mes co-scénaristes, mais j'ai écrit tous mes films, mais en tout cas, on va dire des films plus de niche.
D'accord. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes un petit peu un spécialiste et très inspiré par le thriller dans votre carrière jusqu'à aujourd'hui ?
Oui, en tout cas, c'est sûr que pour moi, ça a toujours été un élément déclencheur à mes films. Donc j'essaye toujours, comme souvent on a les mêmes obsessions, moi, paradoxalement, j'ai envie de faire, parce que j'aime le cinéma dans son entièreté, donc j'aime tous les genres de cinéma à égalité. Et donc, j'aime bien faire des films à chaque fois différents. Mais la chose commune, c'est le thriller. C'est sûr que le thriller a l'avantage d'être un moteur efficace et souvent au reflet de la vraie vie. Donc là, j'ai fait 5 films. Et donc, un thriller amoureux, un thriller social, un thriller... psychologique dans les années 60, un peu à la Hitchcock, et un thriller politique.
Vous pouvez peut-être nous rappeler peut-être les titres au
passage. Oui. Alors le premier c'était Cage, le deuxième c'était Illégal, qui a eu un prix à Cannes, le troisième c'était Duel, et qui a eu dans mon pays 9 Magritte, qui est l'équivalent de 9 César, ouais. Le thriller politique, c'était en fait un unitaire pour Canal+, qui a eu deux prix à Biarritz, qui est en fait l'équivalent de Cannes pour la télé.
D'accord.
Et là, on enchaîne avec l'Argo Winch 3.
D'accord. Donc, ce film-là, en fait, est-ce qu'il vient un petit peu couronner l'histoire de l'Argo Winch, ou il y a encore de la potentialité dans ce personnage? Est-ce que clairement, en fait, vous avez envie de développer encore ces idées, cette initiative ?
À l'origine, comme les BD, moi, j'ai imaginé cette histoire à la fois pour des raisons économiques, parce que tout dépendra comme d'une 1, d'une 2, pas au même niveau, mais en tout cas, tout dépend toujours du spectateur, surtout aujourd'hui au cinéma. Mais c'est sûr qu'avec mon co-scénariste Domenico Laporta, on a imaginé en 2 tomes comme les BD. Et donc ici, ce serait l'équivalent du premier tome.
D'accord, donc une suite potentielle.
Mais j'espère.
On ne peut pas vraiment appeler ça une suite, ça sera autonome malgré tout. Chaque histoire pourra se voir de manière indépendante ou,
Non, en tout cas ici, ce serait une continuité. Maintenant, quelques années plus tard, mais après, on a aussi évidemment pensé le film en unitaire, évidemment.
D'accord. Vous pouvez nous en dire un tout petit peu. Vous travaillez là-dessus ou c'est un peu prématuré de parler un peu de ce futur projet?
Ah ben là, il faut voir le précédent parce que sinon, ça, on spoilie trop celui d'aujourd'hui, d'accord. Malheureusement.
Donc, il y aura filiation par rapport au
premier. Oui, voilà.
D'accord, très bien. Vous nous avez parlé un tout petit peu de musique. Nous, on diffuse des musiques de films tout au long de la journée.
C'est très bien.
C'est un pôle d'intérêt pour vous particulier? Vous auriez pu être un jour musicien, composer des musiques de films peut-être? Ou c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit ou pas du tout?
C'est-à-dire, malheureusement, on ne peut pas tout faire, et je n'ai pas le talent de pouvoir tout faire en tout cas, mais c'est sûr qu'en parallèle, moi j'ai toujours composé de la musique, je suis autodidacte, après j'ai pris des cours d'orchestration, etc. Mais c'est sûr que j'ai travaillé la musique, et je la travaille toujours. Aujourd'hui, ça m'aide beaucoup par rapport à mon travail de réalisateur. C'est-à-dire que beaucoup de réalisateurs ont du mal à appréhender la musique. Moi, j'ai plutôt cette chance-là que je peux parler avec un musicien, je peux lui expliquer, je peux lui parler de couleur, de froideur, de ceci, de cela. Et ça me permet aussi d'avoir des exigences particulières. Et dans chacun de mes films, je travaille toujours avec le même compositeur de musique, qui est Frédéric Vercheval. Chaque fois, j'arrive et je lui dis, voilà, on va partir sur ce genre de mélange de musique. Par exemple, ici, sur l'Argo Winch, c'est important que, évidemment, on garde les cordes et les percus pour la chaleur et l'émotion, mais c'était important aussi de mélanger avec une tonalité plus électro. Et on est parti sur des influences dubstep, trap, de trouver ce mélange-là, parce que ce genre de film permettait à la fois quelque chose de, parce que je voulais quelque chose de moderne, et à la fois parce que c'est pas la première fois qu'on mélange aujourd'hui, tout le monde mélange l'électro avec le classique, mais d'aller chercher dans la dubstep et dans la trap, ça on l'a pas encore fait très très souvent. Donc c'était ça l'intérêt de cette tentative.
Est-ce que vous considérez en fait que la musique est un acteur à part entière dans un film? Est-ce qu'il occupe un rôle suffisamment important à la hauteur d'un acteur ou d'une actrice?
Oui, ça c'est sûr que c'est un personnage à part entière. Moi j'ai toujours fait beaucoup de musique. En Europe on a un petit peu peur de la musique, alors ça s'arrange, il y en a de moins en moins, mais je veux dire, l'Argo Winch il fait 1h37, il y a 1h20 de musique. Donc c'est un personnage à part entière qui exprime, qui a une quatrième dimension, qui exprime tout ce que acteur, mouvement de caméra, etc. ne peut pas exprimer. Pour moi dans la vie, si Dieu existe, c'est la musique. Parce que c'est vraiment le média qui, à la fois, qui sans une, parfois surtout la musique de film, sans une parole, parce que j'écoute essentiellement moi de l'instrumental, sans une parole ou sans rien de prédéfini, on comprend tout. C'est un langage qui est quand même assez extraordinaire dans le sens où il y a... Alors, c'est un langage, mais il n'y a pas de mots, il n'y a rien, et ça exprime tout. On comprend tout.
Clairement, est-ce que l'orientation musicale d'un film peut influencer littéralement la coloration de ce film? C'est-à-dire la température de couleur, la charge émotionnelle que véhicule l'histoire du film, en fait?
Oui, alors ça peut influencer, etc. Mais c'est sûr que...
Une sorte de réponse, en quelque sorte.
Mais moi, je prendrais toujours l'exemple, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de scènes cultes. Hitchcock, la scène de la douche, les films de Sergio Leone. Vous enlevez la musique, faites l'exemple, faites l'exercice, et bien vous allez voir que le film perd 60% de son efficacité. Donc c'est toujours... C'est pour montrer à quel point la musique est un élément essentiel pour moi au cinéma. Après, évidemment, il y a des cinéastes qui décident de ne pas utiliser... Le silence est aussi une musique. Donc, mais ici, dans l'ordre des choses, souvent la musique est le quatrième personnage. Ouais.
À travers ce film, en fait, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de ce que vous avez voulu dire?
Alors, plusieurs choses. J'espère qu'on retiendra que les scènes d'action ne sont pas ringardes pour un film européen. J'espère que les gens retiendront le fait qu'il y ait dans ce genre de film, ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'il y ait des moments d'émotion. Et qu'il y ait, même si on s'amuse et qu'on a du fun, qu'il y ait quand même un petit fond politique, enfin pas politique, mais en tout cas un petit fond de réflexion. Parce que c'était important pour moi que ce l'argot parle d'aujourd'hui, des questionnements d'aujourd'hui. L'argot a mûri, il a un fils, il a des responsabilités différentes.
13 ans plus tard.
Voilà, il a des responsabilités différentes et donc c'est sûr et certain. Et après, dans ces responsabilités-là, même si on veut changer le monde, il y a toujours une face cachée.
Alors, il y a une tradition à la radio du cinéma que pour ponctuer notre rencontre. Je vais vous demander, s'il vous plaît, en fait, de me citer votre musique préféré, votre film préféré et votre réplique de cinéma préférée.
Ok, alors c'est, préféré ça n'existe pas, mais en tout cas les choses qui me parlent, qui font partie de mon panthéon. Au niveau de la musique, il y a la musique de Cliff Martinez pour la série de Nick, qui est assez exceptionnelle justement, et parce que en fait on parle, la série parle d'un hôpital au début du siècle à New York. Et on n'a que de la musique électro. Et le mélange est assez impressionnant parce que c'est toujours difficile que ça passe naturellement, on va dire. Et ici, il a fait le tour de force de rendre ça mémorable pour moi.
D'accord.
Alors le film préféré, mon film préféré, en fait, c'est... Mon film préféré, c'est celui... Alors, il y a des films inatteignables, et il y a... Alors, ce film est inatteignable aussi, mais c'est celui qui m'a donné envie de faire des films et qui m'a dit, tiens, peut-être qu'un jour, je pourrais y arriver. Voilà. Et ça, c'est Voyage au bout de l'enfer, de Michael Cimino, ou Deer Hunter en anglais, qui raconte l'histoire de trois copains qui vont au Vietnam, et voilà, c'est 3 heures, il y a... C'est un film magnifique. Alors aujourd'hui, on ne peut plus produire ce genre de film, malheureusement, mais en tout cas, je ne perds pas espoir.
C'est bon. Nous qui tenons le jeu maintenant. Toi et moi. Toi et moi, on tient le jeu maintenant. Ok.
Et la réplique, bon, là, j'ai moins, c'est moins réfléchi, mais je trouve qu'une réplique, c'est quelque chose qui claque et de tout temps et qui doit être assez réduit, donc c'est Hasta la vista, baby.
Hasta la vista. Baby.
Terminator.
Bah écoutez, je vous remercie infiniment.
Merci beaucoup.
Un petit message, un petit teaser pour nos auditeurs.
Bah, je vais faire mieux parce que je ne connaissais pas cette radio, mais maintenant je ne vais pas arrêter de l'écouter.
Ah, merci, écoutez, beaucoup. Ça, c'est charmant. Merci infiniment.
Merci.